Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, et tous les vendredis, on parle des bandes dessinées. Et aujourd'hui, notre invité est Émile Bravo, à l'occasion de la sortie de son nouveau Spirou. Après le journal d'un ingénu salué par la critique, la profession et le public, près de 100 000 exemplaires de l'album ont été vendus. Voici 10 ans plus tard, l'espoir malgré tout, toujours aux éditions Dupuis. Le réveil culturel, c'est tous les jours à la radio pour ceux qui se lèvent tôt. Et quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. À la coordination, Corinne Amar. À la réalisation, Vincent Abouchard. À la technique, Régis Nicolas. Et en face de moi, à ma gauche, Émile Bravo, l'auteur, bien installé. Et à ma droite, Sonia Deschamps du magazine Casmat. Le réveil culturel, l'actualité de la BD, c'est parti.
Le réveil culturel, vendredi. Bande dessinée.
Bonjour Émile Bravo.
Bonjour.
Faire revivre à Spirou et à Fantasio les œuvres de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'époque où il s'en est en quelque sorte, c'est le pari que vous avez relevé avec succès lorsqu'on vous a proposé de faire un one-shot, comme on dit en bon français, de Spirou, le fameux journal d'un ingénu qui est sorti il y a 10 ans. Et le succès de cet album vous a donné l'occasion de développer encore cette idée sur un projet de plusieurs albums, 4 annoncés jusqu'en 2020, dans celui-ci qui vient de sortir, L'Espoir malgré tout. Et là, la Deuxième Guerre mondiale n'est plus une menace, mais une réalité. Bruxelles est bombardée et les nazis commencent à envahir la Belgique. Donc pourquoi d'abord contextualiser les aventures de Spirou et Fantasio dans cette époque où ils sont nés?
Ben, écoutez, c'est après quelque part c'est un petit peu la suite de l'ingénu. Hein. Le premier album qui est donc sorti il y a 10 ans se terminait quand la guerre commençait. Ça fait un moment qu'on me disait que bah, si tu veux raconter quelque chose encore sur ce personnage, sur Spirou, vas-y, te gêne pas. Et c'est vrai que moi, mon propos, ça a toujours été, en fait, non pas parler de la guerre, il s'agit pas de ça, ni même peut-être même de parler de Spirou, mais de parler de l'éveil d'un enfant, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et à travers un personnage aussi populaire que Spirou, il faudrait pas s'en priver, quoi, parce que non seulement on peut parler d'éveil, effectivement, vu le contexte, on peut parler aussi d'histoire. Et moi, je disais que c'était pas très important, mais oui, moi, c'est ce contexte-là, en fait, je le connais très bien depuis longtemps, et j'avais envie de
non, non, vous avez pas vécu la Deuxième Guerre mondiale.
Non, c'est vrai. Attendez, parce que mais je l'ai pas vécu, mais quelque part, comme j'ai eu des parents assez âgés qui étaient jeunes pendant cette période. Et c'est surtout, en fait, je me suis dit, allez, on va essayer de la vivre objectivement. Je vais me replonger, en fait, dans cette époque. Et vivons l'occupation gaiement. Mais c'est vrai, il y a eu ça.
C'était nourri aussi par les témoignages de vos parents, de votre famille qui a connu cette époque, ou c'est plus documenté
Alors, c'est une
initiative personnelle.
Alors, c'est vraiment plutôt personnel. Alors déjà, témoignage de mon père. Ma mère n'était pas en France, en fait. Ma mère était espagnole, en fait, et elle est venue en France bien plus tard.
Toujours par les soubresauts de l'histoire du XXe siècle.
Oui, mais plus en fait pour des raisons. Alors elle était partie avec des copines visiter Paris, mais c'était aussi pour des raisons économiques, quoi. Elles sont restées en voyant que, économiquement, ça allait mieux que l'Espagne des années 50, quoi.
C'était pas pour fuir Franco pour autant.
Non, ça c'était mon père, ça. Donc voilà.
Alors votre père?
Oui, mais il a combattu. Il était dans l'armée républicaine. Et il a fallu qu'il parte, quoi. Donc il est arrivé en 39 avec son régiment de cavalerie. C'est beau, hein. Et donc voilà quoi. Et lui a vécu l'occupation allemande chez sa tante qui elle habitait en Bretagne et qui était mariée avec un Alsacien, en fait. Et cet Alsacien, quand les Allemands sont arrivés, est mort d'une crise cardiaque. Donc il a fallu qu'il s'occupe, en fait, des enfants de ma tante. Enfin bon, bref. Ça commence à faire déjà un petit récit familial. Et puis surtout qu'en fait, le plus important, c'est que mon père, en fait, quand je raconte ça souvent, mais c'est vraiment une étape importante de ma vie, c'est que avant 10 ans, il m'a dit un jour, sans Hitler et Mussolini, j'existais pas. Ce qui est logique, hein, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Mais à cette époque-là, j'ai pris...
Qu'est-ce qu'il voulait dire ?
Il voulait dire que s'il avait fui l'Espagne, c'est parce que le Franco avait gagné grâce en fait à l'aide de Hitler et de Mussolini. Parce que les démocraties n'ayant pas aidé en fait sa république, ils se sont retrouvés confrontés en fait à vraiment une puissance en fait militaire. C'est la même qui a écrasé en fait la France en 40. Quoi. Et puis bon, comme je vous disais, il était en cavalerie, c'est toujours drôle en fait de l'imaginer à cheval contre des chars et des mitrailleuses, quoi. Donc voilà quoi. Donc pour lui, c'était clair, quoi. Donc à partir de là. Quand à cet âge-là, on découvre ce qu'est l'horreur en fait du nazisme et qu'on nous dit ça, on prend ça vraiment comme quelque chose de très personnel et on cherche à savoir comment l'inhumanité en fait nous a engendré. Alors je m'intéresse à cette période depuis cette époque. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai croisé quelqu'un depuis tout gamin qui a vécu cette période, je lui ai toujours posé la question, savoir comment il avait vécu ça, quoi. Et les témoignages, en général, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a peu de résistants et encore moins de collabos, mais c'est surtout la peur et la faim. La faim, surtout, la faim.
Et avec tout ça, pour reprendre le titre de cet album, l'espoir malgré tout.
Bah oui, effectivement, parce qu'il faut bien en avoir. Mais c'est vrai qu'objectivement, quand on se replace à cette période, et surtout au début, quoi, eh ben l'espoir, il faut aller le chercher n'importe où, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, il y a des gens qui se sont pliés à la collaboration finalement, parce qu'ils le voyaient pas comme étant de la collaboration. Ils voyaient simplement, en fait, la fin du chaos, de la guerre, quoi, en fait, qui était engendrée par la guerre. Et c'est ça, en fait, qui me paraissait intéressant. C'est non pas, en fait, parler de la guerre, pas décrire la guerre, parce que avec ce recul qu'on a aujourd'hui, mais vraiment la vivre, se plonger dans la mentalité des gens de cette époque pour savoir ce qu'ils vivaient au quotidien et voir cette évolution, comment ça change petit à petit, petit à petit.
D'ailleurs, c'est ça les premières pages de ce Spirou, c'est comment les enfants ont vécu cette guerre ou comment les enfants jouaient à la guerre alors que la grande guerre se préparait.
Oui, on peut supposer que c'était comme ça. Après, on m'a dit par exemple. Je joue un peu avec l'histoire. On m'a dit que, par exemple, à cette époque-là, les enfants n'étaient pas très conscients de ce qui se passait. Moi, j'ai du mal à le croire. Hein. Enfin, ils préféraient jouer vraiment à leur jeu quotidien, mais ils transposaient pas ça dans la réalité. Mais bon, je vois pas comment des petits Belges ne pourraient pas jouer à être les Allemands alors que c'est la guerre partout autour d'eux. Ne pourraient pas jouer aux Allemands ou aux Français.
À coups de boule de neige.
Coup de boule de neige, c'est moins dangereux. Mais c'est aussi à porte. Enfin bon, voilà.
Alors, depuis le début, Émile Bravo, on parle de la guerre, du contexte historique. Mais il faut rappeler, et c'est en ça que c'était une réussite, votre entreprise, y compris avec ce deuxième album, l'espoir malgré tout, c'est que ça reste quand même une aventure de Spirou. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a des gags, mais ça doit être, c'est a priori une équation impossible, hein. Parler de l'horreur de la guerre, et continuer à s'adresser aux enfants, à respecter les codes ou la charte d'une aventure de Spirou et Fantasio.
Oui, mais en même temps, c'est des gags qui, à mon avis, j'espère, font rire aussi les adultes. Hein. C'est du gag pour tout le monde, c'est pas simplement un gag basique. C'est surtout, en fait, l'idée, c'est toujours de désamorcer en fait la situation, parce que s'il n'y avait pas de gag, toujours l'ambiance, quoi. Non, il faut que ce soit drôle. Et même, je pense que c'est dans les pires moments qu'il faut avoir le sens de l'humour. Enfin, je pense que chez des gens, en fait, qui ont une prédisposition à ça, c'est là où ils s'aiguisent le mieux, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça plus drôle en général quand la situation est dramatique, quand on entend une blague ou une bêtise dans ces cas-là. Enfin moi personnellement, c'est ce qui me fait rire le plus, quoi. Moi je suis entre les larmes et le rire, il y a vraiment très peu de différence. Donc voilà quoi. En tout cas, je suis très ouvert à ça, quoi. Donc
pas beaucoup de différence, mais c'est tout l'art du dosage. Vous avez quand même pris 10 ans pour fignoler cet album, Émile Bravo. Dois-je le rappeler ici?
J'ai commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans effectivement, et il me reste encore 2 ans de travail, donc pour vraiment finir de mettre au propre tout ce que j'ai écrit et prédessiné, quoi.
Qu'est-ce que ça a pris le plus de temps? L'envie, parce qu'on va en parler. Envie de raconter une histoire ancrée dans les années 40, en pleine guerre mondiale, avec des échos à l'actualité, parce que c'est très présent dans cette aventure, la nécessité d'être très documenté, ou rester quand même dans cette logique d'une aventure de Spirou et Fantasio telle que voulue par le créateur de ce personnage, c'est-à-dire l'éditeur belge Jean Dupuis.
Par rapport à ça, non, il y a aucun, moi j'ai aucune contrainte hein, par rapport à ça. Le seul truc, c'est l'idée, c'est donc de toujours respecter l'esprit en fait du personnage. Ensuite, par rapport à l'actualité, c'est plutôt l'actualité qui rattrape en fait ce que je raconte en fait, parce que comme j'ai commencé il y a 5 ans, il n'y avait pas en fait tous ces flux migratoires encore qu'il y a aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et donc voilà quoi. Et finalement, on a l'impression que l'histoire se répète quoi. Parce que finalement, moi je trouve ça assez drôle en fait de parler en fait des migrants belges dans notre Europe quoi, à savoir qu'à cette époque-là on pensait que c'était, enfin pour nous c'était, pour les Français c'était des étrangers quoi, et qu'aujourd'hui finalement on dit la même chose en fait, que ce soit des Syriens ou des gens qui viennent d'Afrique, et alors que c'est juste le monde qui s'est rétréci quoi, et c'est simplement des êtres humains qui fuient un conflit et ça s'arrête là. Et c'est vrai que historiquement ce que je raconte, c'est vrai qu'on a bloqué les frontières française pendant quelques temps, quelques heures, mais c'est vrai qu'en 40, quand l'armée allemande a déferlé en Belgique, les Français ne voulaient pas des Belges au début. C'est curieux, n'est-ce pas? Donc,
c'est-à-dire comment respecter avec tout ça alors que vous êtes très documenté, je suppose que vous avez longtemps travaillé sur cette période pour recueillir des témoignages, parce que ce qui fait l'originalité de l'espoir malgré tout, c'est que ni Spirou ni Fantasio ne sont des super-héros. Hein.
Non, absolument pas.
Il est gros, il vient de s'engager, le pauvre Fantasio. On peut même dire qu'ils ne sont pas très au fait de la politique de l'époque.
Ah, du tout. Hein. Il s'est même pas engagé. D'ailleurs, il a été mobilisé. Oui. Voilà, il se retrouve dans l'armée. Il sait pas trop ce qu'il fait.
Il crâne un peu quand même.
Ouais, il a toujours été. C'est même. En fait, c'est pas moi qui ai inventé non plus ce personnage. Dans les premiers albums de Franquin, il est déjà un petit peu comme ça, un peu snob, un peu pédant, voilà quoi. Et c'est ce que j'ai voulu en fait mettre en évidence quoi. C'est là où ça crée vraiment une dualité avec Spirou, et c'est là où ça devient drôle quoi. Mais bon, le fait est qu'ils ont aucune conscience, et peut-être que Spirou en a un petit peu plus parce que de fait il avait rencontré dans le premier album cette petite amie en fait qui l'a éveillé à l'amour, mais qui l'a éveillé aussi au monde, et il se trouve qu'elle est moitié, enfin qu'elle est juive, qu'elle est communiste, qu'elle est pas belge, qu'elle est même moitié allemande, moitié polonaise, grandie en Ukraine, vivant en Belgique, enfin tout ça, ça fait un truc qui explose en fait toutes ces idées nationalistes qu'il y avait à l'époque quoi, et de face à un pauvre Spirou qui a été élevé dans une institution catholique qui sait pas grand chose du monde, c'est tellement énorme, et il est obligé finalement de sourire au monde par amour, c'est vrai, et puis voilà, et c'est ce qui développe toute cette curiosité, et voilà quoi. Et puis à côté de ça, Fantasio, lui, c'est juste un impulsif, pas du tout fini. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui l'adulte, hein, et que c'est une façon de dire. Souvent, c'est dans tout ce que je fais, c'est ça. Toutes les BD que j'ai faites jusqu'à présent, c'est une façon de dire. Je parle aux enfants en leur disant méfiez-vous des adultes. Ils disent qu'ils sont adultes, mais ils le sont vraiment pas. C'est plutôt des adolescents attardés. Ça va pas du tout. Ne vous inquiétez pas si vous comptez.
Et l'inverse est tout aussi valable. Méfiez-vous des enfants, mais ils peuvent être très très adultes.
Exactement, c'est ça.
Et lui, bravo pour raconter cette histoire, par exemple, pour les décors, pour les dessins. Mmh. Il y avait beaucoup de documentation, parce que vous nous faites plonger dans le Bruxelles de la guerre.
Alors, ce qui a été plus important au-delà du décor, le dessin c'est le mien, j'ai toujours ce côté vieillot, donc ça correspond bien, ça s'adapte bien à cette période.
La fameuse ligne, claire,
ouais. Ouais, enfin un petit peu maltraitée, quoi. Moi, je n'aime pas trop d'ailleurs ce terme de ligne claire. Ligne claire, pour moi, c'est la définition d'Hergé, c'est-à-dire que c'est le récit qui est clair. Le côté graphique, je suis pas du tout dans l'esthétisme. Moi, pour moi, c'est le dessin est au service de l'histoire, basta, quoi.
C'est-à-dire donc, plutôt Jigé que Franquin?
En fait, non, c'est une vision qui est vraiment pas liée au dessin. C'est-à-dire, en fait, c'est un dessin au service d'une histoire. C'est-à-dire, et là, on peut aussi bien aller à, je sais pas, moi, je pense qu'Arch Spiegelman, c'est la ligne claire pour moi. C'est très clair. Et c'est un dessin, en plus, adapté, en fait, au propos. Donc, ça me va parfaitement. Et puis, ça va aller de Uderzo quand il travaille pour Goscinny. Attention, quand il travaille pour Goscinny. Hein. Bien qu'on veut que les choses soient bien claires. Riyad Zatouf, voilà, tout ce qui est vraiment, ce dessin qui est évident et qui se met au service de, parce que je pense que tout ce qui est un petit peu trop esthétique, nuit à la fluidité et à la lisibilité de l'histoire. Et ce qui compte, en fait, c'est l'histoire, c'est pas le dessin. Le dessin n'est qu'un outil, en fait, pour parler, en fait, d'une histoire. Bon, je vais faire un petit écart, si vous voulez, on pourra en reparler, mais...
On revient au décor.
Donc, au décor, mais alors, donc au-delà du décor, parce que moi, le décor, souvent, enfin, on a l'impression que c'est très fouillé, mais ça ne l'est pas, c'est plus évoqué qu'autre chose, il y a un peu de traits comme ça, mais c'est un peu de l'esbrouf. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment me plonger dans cette époque, et pour ça, en fait, il y a de la documentation, mais il y a notamment, en fait, des bouquins. Par exemple, il y a un bouquin dont je parle assez régulièrement. C'est un bouquin écrit par un magistrat qui s'appelle Paul Struick, qui faisait en fait des rapports qui étaient destinés au gouvernement en exil à Londres. Mais il était aussi, il avait, je sais pas, une espèce de vérité de sociologue. Et ça, c'est vraiment un document très précieux parce que il y a pas de, c'est très neutre, c'est du factuel. Et ça va vraiment des courants de pensée parce que lui, il était au barreau, je crois. Enfin bon, c'était un bourgeois quand même de Bruxelles et il avait un petit peu accès à tous les dossiers, moins le monde ouvrier, mais c'est pour ça que ce bouquin est complété par un autre sociologue qui s'est occupé du monde ouvrier. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre, ce sont des rapports en fait qui ont été écrits pendant cette période-là où il y a pas de jugement, que du factuel, et ça va vraiment en fait, comme je vous disais, des courants de pensée au prix du pain, quoi. Et c'est là où on est et à tout ce qui s'est passé, genre petites anecdotes, ce que pensent les gens parce qu'il y a eu une arrivée ou alors une pénurie de charbon. C'est vraiment très très intéressant et ça nous permet vraiment, juste par des faits, de nous imaginer, ça nous amène en fait à cette époque. Et là, il suffit de le vivre avec cette imagination. On prend ces personnages, Spirou, Fantasio, et on les fait vivre, on les fait survivre dans cet univers en rapport avec tous ces témoignages dont je vous parlais, où ça a toujours été la même chose, quoi. Faim et peur. Et ben, c'est cette ambiance que je voulais expliquer. Et puis. Puis je crois qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui savent plus ce que c'est cette période. Donc il fallait leur en parler.
Voilà, cette ambiance qu'on retrouve dans cette belle chanson.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci, lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Quand me repassaient en pleurant, nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards, et les femmes s'accrochait aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le...
Jacques Brel, Bruxelles, mai 1940. Voilà qui résume bien le contexte de votre dernier Spirou. Spirou, l'espoir malgré tout.
Émile Bravo.
Ça illustre parfaitement, oui.
Est-ce que le poids de l'histoire de la bande dessinée, de l'histoire de Spirou, je rappelle que c'est un personnage de fiction, mais qui appartient à son éditeur, c'est Dupuis. Il a été créé graphiquement par Rob Well, mais il est passé par des mains aussi illustres que célèbres, J.G., Franquin, Fournier. Est-ce que vous portez ça quand vous mettez à dessiner Spirou à votre tour, Émile Bravo?
Non, absolument pas. En fait, je le prends comme un ami d'enfance plutôt. Voilà, comme je vous disais, en fait, tout ce que je fais est lié à mon enfance, donc c'est pour ça que je suis complètement décomplexé. Il y a pas de, j'ai pas de fascination. C'est quand même des personnages de papier, quoi. Là, c'est de la bande dessinée, quoi. On peut pas prendre ça sérieusement quelque part.
Mais là, c'est moi qui vous prends pas au sérieux. Non. Je sais qu'il y a un enjeu financier autour de Spirou. C'est quand même un best-seller, C'est-à-dire, est-ce qu'on travaille librement quand on a vendu 100 000 albums d'un précédent Spirou?
Oh, c'était il y a 10 ans, ça, c'est oublié. Non, ça ne me colle pas du tout la pression. Alors, vraiment, je fais pas ça pour ça. Je ne sais pas. Enfin, j'espère que mes éditeurs non plus ne le font pas pour ça, parce que non, moi tout ce qui m'intéresse vraiment c'est de raconter une histoire qui me parle et qui fait partie de moi, c'est pour ça que je vous ai dit tout ce que j'ai dit précédemment, mais à côté de ça, Spirou, voilà, c'est comme je dis, c'est juste une marionnette. On m'a prêté des jouets, Spirou, Fantasio, Spip, et voilà, je joue, j'ai fait mon petit théâtre.
Et pourtant, il y a quelques scènes où on voit que vous êtes posé la question, que faisait-il pendant cette période les auteurs de mes bandes dessinées préférées? L'apparition d'un Hergé bizarre dans votre aventure, c'était aussi une manière de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur période, qu'est-ce que je fais dans la mienne de période?
Ah oui, d'accord, je me suis pas posé la question dans ce sens-là, mais moi...
Quel sens, dites-moi?
Non, c'était juste... mon propos, il est simple, c'est Spirou existait, mais pas Tintin. Tintin, c'est un personnage de bande dessinée. Il existait, donc à partir de là, il a vécu dans ces années-là, il était enfant dans ces années-là, donc fatalement, et en plus, il a grandi dans une institution catholique, donc fatalement, il lisait Le Petit Vingtième, il lisait Tintin, il était fan de Tintin, obligatoirement. Donc en fait, c'est plus ce que je raconte à travers ça, c'est plus une sorte d'hommage, quoi, aux enfants de l'époque qui lisaient ce Tintin. Ensuite, ce qu'a fait Hergé pendant cette période, ce qu'a fait Tintin pendant cette période, je le sais très bien, mais c'est pas du tout, il n'y a aucune dénonciation là-dedans. Justement, on a l'impression que je vais peut-être parler de ça, puisque je parle du Soir, par exemple, qui est le journal en fait qui a collaboré pendant l'occupation et qui, où les aventures de Tintin passaient, mais en fait, non, pas du tout, je ne veux pas en parler, parce qu'en fait, voilà quoi, c'est un petit peu lourd, c'est pas la peine de parler de ça, il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes.
Alors, parlons de vous, Émile Bravo, avec le portrait dressé par Sonia Deschamps. Bonjour Sonia.
Bonjour, bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver.
Ravie aussi. Alors Émile Bravo, vous êtes plutôt discret, c'est une qualité dans ma bouche, petit peu moins quand il est question de dresser un portrait. Vous aimez travailler en atelier, vous aimez être entouré, alors pour mieux vous connaître, c'est à vos copains que je me suis adressée, à quelques-uns de vos camarades. J'ai par exemple appris auprès de Marc Boutavant, le dessinateur de la série Ariol, j'ai appris auprès de lui que vous étiez, je le cite, un mélange rare de champignons et de crevettes. Je le cite toujours, Émile m'a encouragé à dessiner, et plus que ça, en plus de tous ses talents, parmi lesquels reconnaître les constellations et fluent espagnol, Émile est trop fort pour découvrir et coacher les jeunes pousses. J'ai découvert cela, Émile, votre générosité. Delphine Chédru, qui est autrice et illustratrice de livres pour enfants, me l'a confié. Je la cite elle aussi, lorsque je bute sur une position ou l'expression d'un personnage, il est toujours disponible pour, en quelques coups de crayon et en s'adaptant à mon style, aider et dédramatiser mes difficultés graphiques. Son rapport à la bande dessinée et surtout au dessin est simple et direct. La simplicité, c'est un mot qui pourrait vous caractériser, la simplicité au meilleur sens du terme. Toujours au service de vos histoires, votre dessin vise l'essentiel. Il est pour vous une écriture universelle. Et cette envie de raconter des histoires dessinées, elle est liée à votre enfance, à vos lectures d'enfants. Hergé, Goscinny, Franquin, Maurice, belles influences. Aujourd'hui, vous êtes adulte et l'enfance n'est jamais bien loin, partout dans vos récits. Moi, à 12 ans, je lisais Okapi et j'y ai un jour découvert une épatante aventure de Jules. Vos aventures de Jules qui, publiées en album, vous voudront de remporter en 2001 le prix René Goscinny. Mais savoir raconter en dessin des histoires n'est pas votre seul talent. Olivier Taïek, l'auteur de Bonne Journée, qui publie dans les jours qui viennent Je reviens vers vous, Olivier me l'a confirmé. Émile est connu pour les aventures de Jules, des Trois Ours ou pour ses Spirou. Mais il y a quelque chose qu'Émile fait encore mieux que les livres, c'est les calamars. Les calamars en majuscule, hein. Il faut aller manger des calamars chez Émile une fois dans sa vie, même deux. Jean Regnault, qui est un grand ami à vous, scénariste avec qui vous avez notamment publié le livre pour enfants « Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill ». Jean ne m'a lui pas parlé de calamars, hein, mais il m'a appris que vous étiez le roi de la paella valenciane. 3 heures de préparation, 2 heures de cuisson, 1 heure de dégustation. Il m'a aussi indiqué qu'avant de vous lancer dans la bande dessinée, vous étiez un redoutable footballeur et que vous partagez votre vie entre l'Ariège, où vous travaillez, et Paris, où vous avez vraiment du mal à travailler, mais vraiment, vraiment beaucoup. 10 ans entre le journal d'un ingénu et Spirou, l'espoir malgré tout. C'est un joli score, c'est vrai. Un joli score qui appelle une jolie dernière description. Emmanuel Guibert est l'auteur de La guerre d'Alan et du photographe. Voilà, Émile, ce qu'il m'a dit de vous. Émile, c'est un copain qui porte le XXe siècle sur son dos. C'est-à-dire qu'il a vu personnellement les Éparges, Chaplin, la Retirada, le Blitz, les procès de Moscou, les Beatles, le Vietnam et l'homme sur la Lune. Il est donc très vieux, Émile. Mais en même temps, il a des culottes courtes, les chaussettes en haut des mollets, et il raconte des blagues aux filles en fumant derrière le marronnier de la cour de récré. Il est donc quelque part entre la fin du primaire et le début du collège. Va t'y retrouver avec ça. S'y retrouver, je sais pas, mais je retiens l'importance de l'enfance et de l'amitié, la générosité et la simplicité, en plus des talents de dessinateur, conteur et de cuisinier. C'est pas mal déjà comme base de portrait.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Deschamps du magazine La Casemate. Il me reste plus qu'à vous dire tout simplement merci Émile Bravo d'être passé.
Ben merci à vous, je suis super ému parce que je viens d'entendre, je m'y attendais pas.
Et merci pour le dessin que vous nous faites pour le réveil culturel et qu'on retrouve bien sûr à la page de l'émission en passant par franceculture.fr. Bonne matinée, bon week-end, à lundi. Spirou, l'espoir malgré tout, est édité chez Dupuis, bien entendu.